Invité des matins du samedi de France Culture, Martial Foucault, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes professeur à Sciences Po, où vous dirigez le CEVIPOF, le centre de recherche politique. Vous publiez « Maire au bord de la crise de nerfs », maire M-A-I-R-E-S, on est à quelques semaines des municipales. Et c'est le fruit d'une enquête d'un an auprès des maires et de leurs administrés. On va bien sûr y venir dans quelques minutes, mais la une de tous les journaux aujourd'hui, ce matin, qu'ils soient nationaux ou même de la PQR, c'est la défection de Benjamin Griveaux, candidat officiel à la mairie de Paris de La République En Marche. Les réactions politiques ont été quasi unanimes, Martial Foucault, j'en prends quelques-unes. Cédric Villani a dit « L'attaque indigne qu'il subit est une menace grave pour notre démocratie ». Raphaël Glucksmann, « La politique, cela ne doit pas, cela ne peut pas être ça, ressaisissons-nous collectivement ou nous allons tous nous noyer dans la fange ». Et Jean-Luc Mélenchon, la publication d'images intimes pour détruire un adversaire est odieuse. Refusons le naufrage voyeuriste de la vie politique et de la vie publique du pays. Non, tous les coups ne sont pas permis. Vous partagez largement ces sentiments, ces réactions, Martial Foucault. On a un problème, c'est inquiétant du point de vue de la démocratie.
Oui, c'est inquiétant, mais je suis à la fois surpris de l'unanimité des réactions ou de la quasi-unanimité des réactions, se montrant solidaire vis-à-vis d'un candidat qui a été effectivement, je crois, sur le plan personnel, profondément humilié par la diffusion de cette vidéo. Mais je dirais qu'il faut peut-être placer le débat sur deux terrains. Il y a un terrain juridique. Et là, d'une certaine manière, le droit encadre l'illégalité de la diffusion de ces vidéos. Et puis j'ai entendu hier beaucoup de choses, un procès fait à Twitter ou aux réseaux sociaux en général. Je pense que c'est pas ça l'enjeu hier. Twitter a probablement accéléré la diffusion, mais au départ, ça revient à ce que la vie politique a connu dans le pire, c'est-à-dire des scènes volées. C'était par le passé des paparazzi et on condamnait de la même manière. Donc c'est pas Twitter qui est réellement en cause ici, parce que au fond, certes Benjamin Griveaux est la victime, mais je dirais d'un processus qu'il a lui-même d'une certaine manière créé par l'envoi de cette vidéo à une personne qui est certainement pas de si grande confiance. Alors du coup, ça nous éloigne du terrain juridique pour aller sur un terrain qui me paraît plus intéressant, qui est le terrain de la moralité. C'est une affaire de mœurs dont il s'agit depuis hier. Et sur ce plan-là, je dirais que oui, effectivement, on est à mi-chemin entre une société qui exige la transparence absolue et qui parfois frôle avec le voyeurisme. C'est ce que disait le philosophe Michel Foucault quand il parlait d'une société panoptique, c'est-à-dire cette société où finalement on atteint un niveau de surveillance où les acteurs eux-mêmes ne le savent pas. Donc on est surveillé, et en 2020, je pense que les attitudes et les gestes que chacune des personnalités politiques doivent prendre sont à mettre à la distance à la fois d'une exigence de transparence. Bien sûr. Alors on peut dire, mais jusqu'où s'arrête la transparence? Quand on reçoit la légitimité politique, quand on est un personnage et en campagne, on reçoit la légitimité politique du suffrage universel, on peut effectivement s'interroger sur l'imprudence de Benjamin Griveaux. On a beaucoup parlé...
En gros, il n'a pas fait assez attention.
Mais c'est-à-dire que jusqu'à présent, on parle d'impudence. Mais il y a aussi de l'imprudence qui, à mon sens, n'a pas encore été. Peut-être que c'est trop tôt, on est dans la réaction et on verra finalement si cette affaire résonne auprès de l'ensemble de la classe politique sur une tonalité différente dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Parce que pour moi, ce qui serait terrible serait que cette solidarité politique... réveille chez un certain nombre de Françaises et de Français le sentiment d'un entre-soi et tout le monde se serre les coudes parce que ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux, qui est profondément illégal, pourrait arriver à d'autres personnes. Et donc moi je trouve qu'il faut peut-être pas aller simplement sur la question juridique parce qu'elle est parfaitement cadrée. Je crois pas que le législateur ait besoin d'aller encore un peu plus loin par rapport à cette séquence. Mais en revanche, discuter de cette, pour moi, de jusqu'où on place le curseur sur la transparence attendue des élus. Parce qu'ils rendent des comptes enfin, on leur demande de rendre des comptes presque tous les jours. Est-ce qu'on doit leur rendre des comptes dans la sphère de l'intime, du privé? Je ne crois pas.
Certains parlent justement, Marcel Foucault, comme Le Parisien aujourd'hui, En France aujourd'hui, d'un tournant dans la vie politique française avec cette idée d'une américanisation de la vie politique française.
Je ne sais pas si c'est une américanisation. Il me semble que dans d'autres domaines, on peut parler d'américanisation. Sur ce qui s'est produit hier, c'est-à-dire une sorte de viol de l'intimité et qui entraîne la démission du candidat. On a fait des parallèles avec un certain nombre de cas aux États-Unis, et notamment ce candidat à l'élection municipale de New York. Mais si vous voulez, c'est pas du puritanisme dont il s'agit précisément. On est sur une affaire de mœurs. Et moi, je me dis, en fait, moi, je m'interroge de la manière suivante. Je me dis, est-ce que Benjamin Griveaux a été à ce point conscient des risques qu'il prenait au moment où il exerce les plus hautes responsabilités, il est ministre, sachant qu'il se dessine un destin municipal, peut-il penser à un instant dans une société, comme je vous disais, où la surveillance est en train de s'installer, que ces faits, un jour, ne seraient pas instrumentalisés, et quand bien même c'est illégal. Mais c'est ce point-là qui me semble être très discutable.
Comment comprenez-vous son retrait, sa démission ?
Ouais, je crois que c'est un retrait qui, avant tout, me semble être lié à une humiliation publique. Je ne sais pas le nombre de personnes qui ont pu voir ces vidéos, mais on peut imaginer que ce sont des dizaines de milliers ou centaines de milliers. Comme je vous le disais, c'est une affaire de mœurs, donc on peut penser que c'est une décision qu'il a prise seul et avec sa famille. Et puis, peut-être sur un terrain plus politique, je dirais que peut-être aurait-il réviser sa décision si Benjamin Griveaux était donné vainqueur au fil des sondages depuis des semaines et des semaines, ce qui n'était pas le cas. Je dis pas que ça a précipité, ce n'est pas un acte suicidaire, ça n'a pas précipité son retrait, mais sa campagne était jusqu'alors très difficile.
Martial Foucault, est-ce que vous voyez un lien entre cette affaire d'hier et les attaques violentes contre des élus locaux de La République En Marche depuis un an, des permanences taguées, murées, vandalisées, des menaces, des agressions dont font part les élus locaux ?
Oui, il y a un lien à établir, c'est-à-dire que on dit la politique.
Le grand malaise, hein, dit, oui, titre Le Parisien quand même.
La politique, comme disait un sociologue, est un sport de combat. On ne sait pas où les limites sont définies. Moi, ce que j'observe sur les violences à l'endroit, certes des députés et leur permanence, mais c'est vrai aussi d'autres élus locaux. Hein. Moi, j'ai pu observer cela en interrogeant les maires.
Dans votre enquête.
Je dirais qu'on est passé d'un stade où la politique, parfois, se caractérisait par une violence rhétorique très forte. Mais bon, la politique, c'est le débat d'idées. Et certains maîtrisent mieux les codes
c'est
que d'autres.
Joute verbale.
Absolument. Aujourd'hui, on glisse progressivement, effectivement, d'une violence rhétorique à une violence verbale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que on a plus d'argumentation. On va immédiatement essayer, voilà, de blesser, de viser, et parfois sur le terrain presque privé, où c'est en sous-entendu. Et puis, la frontière très poreuse entre la violence verbale et la violence physique est aujourd'hui atteinte. Donc qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de l'état du bon fonctionnement d'une démocratie? Cela nous dit que, alors on pourrait dire, nous avons les représentants politiques, une société mérite. Je crois que c'est plus profond que cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exaspération de nombre de citoyens les conduit sans filtre à considérer que l'on agresse verbalement ou physiquement c'est très rare, mais ça arrive, qu'on agresse ses représentants comme le dernier, je dirais, l'appel de dernier ressort, et qui, de mon point de vue, interroge sur la capacité qu'ont réellement aujourd'hui les représentants de répondre à des demandes sociales
d'une urgence absolue.
Donc
c'est l'une des causes du malaise des maires dont vous parlez dans votre livre, malaise maire au bord de la crise de nerfs, parce qu'en plus de tout le reste, vous faites donc tout un livre pour nous parler de ce malaise local, de la démocratie locale.
Oui, parce que au fond, ce que l'on vient de dire à l'instant sur des représentants, des députés et même parfois des conseillers régionaux victimes de violences physiques, ils ont en commun avec les maires de ne pas être, je dirais, appareillés intellectuellement, même si le droit peut venir à leur secours, mais ils ne sont pas prêts à répondre à une telle violence. Et donc, je dirais qu'ils sont totalement isolés.
Ils sont démunis.
Ils sont solitaires et chacun réagit. Et souvent, beaucoup de maires que j'ai pu rencontrer me disent, dans ces circonstances-là, il faut faire appel au bon sens. Chacun a une sensibilité particulière pour pouvoir répondre à ces demandes. Et cela est intéressant parce que pour beaucoup de maires, on est dans cette séquence des élections municipales, n'oublions pas que beaucoup de maires sont arrivés au pouvoir de leur municipalité en 2014. Et certains d'entre eux n'avaient pas d'expérience politique. Beaucoup avaient eu l'occasion de faire de la politique par l'associatif. Et je dirais que cet environnement associatif, le contexte associatif, n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils découvrent comme représentants. C'est-à-dire que là, ils ont hérité d'un suffrage universel, ils ont été élus. Et donc, ils se sentent à la fois prisonniers d'une incapacité à répondre à ces demandes, et comment peut-on d'ailleurs répondre à des violences physiques, mais ils comprennent un certain nombre d'exaspérations.
Ils sont prêts en tenaille, en quelque sorte. La vie réelle sur le terrain et la compréhension du monde social qui les entoure.
Oui, moi je dis dans l'ouvrage, ça me fait beaucoup penser aux compressions de César. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois soumis à une imposition de l'État central sous forme de toutes sortes d'injonctions, de normes juridiques, d'exigences, par des citoyens de plus en plus exigeants, voire même consuméristes, avec la chose publique locale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et puis, latéralement, pris en tenaille sur le plan de l'organisation du territoire par ces nouvelles intercommunalités qui les dépossèdent d'un certain nombre de compétences. Alors, dans ce contexte-là, être en capacité de répondre à des violences physiques, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour certains. C'est-à-dire que ils disent très clairement, nous n'avons pas été élus. L'élection d'un maire de petite commune, c'est presque 20 000 communes en France sur les 35 000 de moins de 1 000 habitants. C'est un engagement quasi bénévole. Ce n'est pas un engagement sur un combat politique. Et donc, c'est d'une violence inouïe d'être agressé.
Et c'est 24 heures sur 24, de toute façon. Pierre-Emmanuel Béni qui est un maire d'une petite commune de 1800 habitants aux frontières de l'Île-de-France, vient de publier un livre qui est un témoignage intitulé « Cher administré, si vous saviez la vraie vie d'un maire de terrain ». Bon, voilà, il témoigne pas de dimanche, pas de jour férié, pas de vacances. Un habitant débarque alors que je fais un barbecue avec des amis dans mon jardin parce que la tondeuse de son voisin fait du bruit, en lui disant « vous êtes payé avec nos impôts, à vous d'intervenir, la vie est rythmée par une sonnerie H24 sur le pont, etc. » Donc si à ça vous ajoutez effectivement une violence physique, ça explique que vous titriez maire au bord de la crise de nerfs.
Oui, parce que en fait il y a un élément qui pour moi est nouveau quand on étudie l'environnement politique. Si vous voulez, depuis 40 ans, on a beaucoup parlé, beaucoup de travaux ont été publiés par des sociologues, des économistes, sur un rapport de plus en plus individuel à la chose privée. C'est-à-dire que le contexte de mondialisation a conduit les gens à être dans des démarches de relations très privatives. D'une certaine manière, je consomme, donc je suis, j'ai des droits. Ce qui est nouveau sur le plan local, c'est un rapport d'individuation extrêmement fort vis-à-vis de la chose publique. Et donc ce que vous décriviez est juste, c'est un petit peu la posture, je paye des impôts, donc j'ai le droit à. Ça c'est un premier élément, qui est pas nouveau, mais le phénomène prend de l'ampleur. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre le malaise des maires, c'est aussi, d'une certaine manière, de très grande mobilité résidentielle. On observe que sur le territoire, les gens déménagent.
Ils ne travaillent pas nécessairement là où ils vivent.
Exactement. 40% aujourd'hui des Français ne vivent pas dans la commune où ils travaillent. Et donc, ça produit des phénomènes de demande sociale totalement nouvelles, pour des Français, des Françaises, en mode urbain. la journée ou le travail, et en mode rural ou périurbain le soir ou les week-ends. Et ça me fait penser à cet ouvrage de Jean-Pierre Le Goff, village de Cadenet dans le Vaucluse, où il avait expliqué qu'il y avait ce mythe de la clôture et de la piscine fermée. C'est-à-dire qu'il y a un repli sur soi dans les villages. Les maires sont désespérés de voir de nouveaux résidents qui ne se mêlent pas, qui ne participent pas aux activités. On est dans des petites structures, hein, petites communes, 1000, 2000, 3000 habitants, qui sont dans un mode de repli, et donc ça exacerbe un rapport extrêmement individuel à la chose publique. Et donc, il y a une sorte de hiatus entre des maires qui veulent le bien de leur cité et des citoyens, nouveaux citoyens, qui sont uniquement dans un rapport consumériste. Et ça contribue pleinement au malaise des maires. On verra s'ils décident de poursuivre leur engagement, mais quand même beaucoup d'entre eux découvrent une vie politique locale extrêmement violente.
Le directeur du Centre de recherche de Sciences Po, Martial Foucault, est notre invité ce matin. Il est 8h32 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
Intéressant, Martial Foucault, cette parenthèse européenne pour parler des maires. On va revenir à nos villes et villages de France, mais on a vu en Europe un certain nombre de maires, comme le Polonais dont parlait à l'instant Matteo, qui s'opposent aux populistes et dans des grandes villes, et les grandes villes tombant, si je puis le dire ainsi, aux mains de progressistes à nouveau. Il y a même eu une alliance entre différents maires, alors de Prague, Budapest, Bratislava et Varsovie, qui ont signé un pacte d'alliance des villes libres le 16 décembre à Budapest. Vous avez contribué avec votre livre précédent, avec Yann Algan, Elisabeth Bisley et Daniel Cohen, à ce livre aux origines du populisme. Est-ce que vous croyez à une diplomatie municipale européenne pour concurrencer les autocrates et les populistes?
Écoutez, ce qu'on a pu observer au plan national, dans le cadre de cet ouvrage « Les origines du populisme », a des racines au plan local. Hein. Il ne s'agit pas de penser qu'il y a un décalage entre des citoyens qui seraient dans une communauté nationale et des citoyens différents dans une communauté locale. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, je me suis attaché à essayer de comprendre si cette question de l'origine des populistes, des racines du populisme, dont on dit qu'elle a une source beaucoup plus subjective, qui a un rapport à la question du bien-être ou du mal-être des citoyens, de la satisfaction dans la vie, de la question de l'optimisme, je me suis interrogé pour savoir si les élus étaient une catégorie à part entière et différente des citoyens qu'ils représentaient. Et donc dans cet ouvrage, je me suis livré une analyse de comment mesurer subjectivement le rapport qu'ont les élus, les maires, vis-à-vis de ces questions. Et moi j'étais très surpris. J'ai un résultat qui montre quelque chose assez proche de ce qu'on a observé dans les origines du populisme. C'est-à-dire qu'on a effectivement deux catégories de maires, pour dire les choses très simplement. Vous avez des maires qui sont très satisfaits de la vie qu'ils mènent, optimistes, qui ont un niveau de bien-être très élevé, et ces maires, on les retrouve essentiellement dans les très grandes villes, dans les métropoles. Mais en parallèle, ils représentent des citoyens toujours dans ces grandes métropoles extrêmement défiants. C'est-à-dire, ils ont des niveaux de défiance interpersonnelle, ils ne font pas confiance à leur entourage familial, ils ne font pas confiance à leur entourage amical, leurs collègues de travail, les gens qu'ils rencontrent pour la première fois, d'une nationalité ou d'une religion différente. Donc il y a véritablement une grande difficulté aujourd'hui, si on dit maire d'une très grande ville, parce que on doit représenter des gens beaucoup plus défiants que soi-même. Mais on observe le phénomène totalement inverse au plan très local, où là on a des citoyens heureux, optimistes, relativement confiants vis-à-vis des autres, parce qu'on est dans des communautés beaucoup plus petites, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'invisibilité, c'est très visible, et d'ailleurs comme l'acte de vote. On se demande pourquoi il y a des taux de participation beaucoup plus élevés dans les petites communes, mais il y a un contrôle social qui s'exerce. Si vous n'allez pas voter, ça se sait, on repère très facilement. Et donc dans ces petites communes, on a des niveaux de confiance de la part des citoyens très élevés, mais des maires avec des mêmes niveaux beaucoup plus bas. Et donc, il se produit quelque chose aujourd'hui dans la démocratie locale française qui a été à l'origine de ce travail, d'essayer de comprendre si un ressort est en train de se casser entre la capacité des maires à représenter eux-mêmes des citoyens heureux sans avoir les moyens de poursuivre, d'une certaine manière, de continuer cette aventure vers l'optimisme dans un pays qui en manque cruellement.
Ce livre dont vous parlez, c'est donc « Mère au bord de la crise de nerfs, la démocratie locale peut-elle survivre ?» qui vient de paraître aux éditions de l'Aube et dont on parle ce matin. Vous avez vu sans doute le journal du dimanche, Martial Foucault, il y a quelques jours, faire une page sur ces villes et villages où l'on vit le mieux. Alors on a Annecy, Bayonne, La Rochelle, et puis de l'autre côté, Peltres, Guétary et Martinvaast. Le podium est ainsi représenté des villes et villages de France où il fait bon vivre. Dans votre enquête d'un an à peu près hein, auprès des élus locaux dans tous les territoires de France et de Navarre, vous avez constaté la même chose ?
Alors, je suis pas en mesure de faire un classement, et puis d'ailleurs,
vous y refusez.
Voilà, je ne me livrerai pas pour des raisons à la fois de, c'est à la fois intéressant parce qu'on apprend des choses sur quels sont les critères utilisés pour mener à bien un tel classement, et en revanche, je dirais que il est quasiment impossible d'imaginer comparer chacune des communes françaises. Alors, à la fois par leur histoire, un temps beaucoup plus présent. Moi, j'ai pu observer pendant la séquence du grand débat national, il y a presque un an, avec mes étudiants, on a sillonné pendant presque 3 mois la France entière à observer un grand nombre de débats. Une variété de pas seulement de problèmes, mais aussi d'espoirs qui montrent que la démocratie locale, d'une certaine manière, on ne peut pas imaginer que cette démocratie qui est en tension aujourd'hui en France, elle ne peut aller mieux si on ne tient pas compte du local. Parce qu'il faut bien voir que la vie politique locale, pour moi, c'est d'une certaine manière, c'est un peu l'école de la citoyenneté. Les maires sont des producteurs de citoyenneté. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rapport qu'ils ont avec les citoyens est extrêmement fondamental, pas seulement pour essayer de répondre à des questions, à des demandes sociales, et elles sont nombreuses, on a eu la crise des territoires qui s'est déroulée sous nos yeux, mais quand je dis ils sont producteurs de citoyenneté, c'est eux qui entretiennent le rapport à la politique.
Oui, ça veut dire qu'on mesure l'état d'une démocratie à l'échelle locale, presque.
Absolument.
C'est la base. Quoi.
Absolument, c'est-à-dire ce qui se fait par le bas est fondamental. On ne peut pas avoir une démocratie radieuse, heureuse au plan national, et une démocratie locale qui serait extrêmement, presque en lambeaux, et qui mécontenterait la majorité des citoyens. Et donc, ce qui se passe au plan local, à mon avis, nous dit davantage de la manière dont les citoyens se représentent leurs représentants. Et dans quelques jours, nous avons publié au CEVIPOF ce fameux baromètre de la confiance politique que l'on a mis sur pied il y a plus de 10 ans. C'est pas un teasing que je suis en train de faire, mais on a des éléments qui, effectivement, nous indiquent que le niveau de confiance des Français vis-à-vis de leurs élus municipaux est encore très élevé. Et pour moi, c'est l'argument que j'essaye de défendre. Ça tient à la fois, certes, de la proximité, parce que la confiance, ça tombe pas du ciel. Hein. Pour moi, la confiance, si on a confiance en son maire, c'est à la fois sur un terrain, un ressort de proximité, mais aussi un ressort de compétence. Et aujourd'hui, au plan national, si on a une telle défiance vis-à-vis de nos représentants, c'est qu'il y a un doute profond sur leurs compétences et leur absence, je dirais, quand je dis la proximité, c'est une question, alors je sais que c'est un terme qui a été depuis quelques mois maintenant mobilisé dans d'autres arènes, mais c'est la question de la bienveillance. Et la bienveillance, c'est pas seulement une notion psychologique, c'est la question du soin, prendre soin d'eux. Et au plan local, on a ces éléments, ce qui fait que les maires sont très appréciés parce qu'ils sont capables de prendre soin d'eux, même si ça leur coûte parfois des violences verbales et physiques. Et ils sont proches, ils sont disponibles.
Dans cette pré-campagne des élections municipales qui auront lieu dans quelques semaines, Martial Foucault, on parle beaucoup de l'essor des listes citoyennes. Vous les avez vues de fait, de près ?
Alors, pour être totalement honnête, je dirais qu'il y a encore 3 mois, je ne m'intéressais pas à ce sujet. Et effectivement, en rassemblant pour chacune des communes avec d'autres collègues au CEVIPOF, pour essayer de comprendre comment on va pouvoir donner des nuances politiques aux listes, pour essayer de ne pas être trop prisonnier de ce qui était à l'époque un projet de modification de...
Il y a 15 jours, hein,
voilà,
okay.
C'est ça, de la circulaire du ministre de l'Intérieur. Bon... En fait, effectivement, on a vu, en rassemblant l'ensemble des professions de foi, des plateformes dans un grand nombre de villes, l'essor de ces listes citoyennes. Alors, je suis à la fois embarrassé parce que ça semblerait être un phénomène nouveau. Non, il n'est pas nouveau. Les listes citoyennes, c'est précisément le lot quotidien de chacune des campagnes municipales dans les petites villes. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les listes citoyennes émergent dans les très grandes villes. Brest, Toulouse, je reviens de Toulouse, et effectivement, il y a une forme d'émulation par ces listes citoyennes, dont on doit quand même interroger le terme citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a été présenté comme des listes qui rassemblent des femmes et des hommes qui sont engagés venant de la société civile. Alors la notion de société civile est à manipuler avec beaucoup de précaution, parce qu'on observe quand même au sein de ces listes des personnes qui ont été chassées de leur formation politique, qui ont été exclues, qui n'ont pas pu obtenir les places qu'il ou elle espérait. Et puis on a aussi un réseau associatif fortement mobilisé et qui a réussi ce tour de force de pouvoir combiner un engagement. Faire de la politique, c'est pas seulement attendre le verdict des urnes, mais c'est aussi un passé, notamment associatif. Alors oui, ces listes citoyennes prennent de l'importance. On peut les situer environ à 300 à 500 listes citoyennes aujourd'hui en France, sur ces grandes communes de plus de 10 000 habitants. Je crois qu'aucune d'entre elles n'a aujourd'hui la possibilité de l'emporter. Mais en revanche, elles compteront énormément dans ce jeu de l'entre-deux-tours où les alliances vont se nouer. Et je crois qu'elles pèseront beaucoup plus fortement comme elles n'ont jamais pesé dans un scrutin de second tour.
Quid en un mot des listes dites communautaristes ou communautaires? On vient de voir que la droite sénatoriale allait proposer une loi pour les interdire. Donc est-ce que ça a du sens, une existence? Est-ce que pour vous c'est un montage?
C'est un épiphénomène qui a été finalement mis d'une certaine manière porté à l'attention médiatique après le scrutin européen. Un certain nombre de responsables politiques se sont alertés du fait que dans un certain nombre de bureaux de vote, des scores à deux chiffres étaient obtenus par ces listes communautaires. Et quand on dit communautaire, ici, tout le monde a à l'esprit, en tout cas c'est le propos qui a été tenu par un certain nombre de responsables, de listes de musulmans de France. En fait, quand on regarde attentivement le score obtenu au niveau national, il est très, 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 très faible. Donc, il y a eu une véritable vitrine qui a été accordée à ces listes. Au plan municipal, les listes communautaires, oui, il y en aura quelques-unes. Mais il me semble qu'on est à des années-lumière d'un phénomène. Il faut bien voir, dans l'esprit quand même d'un certain nombre de responsables politiques, c'est pas un phénomène qui s'installe. C'est présenté comme un phénomène qui, potentiellement, pourrait gangréner la vie politique municipale. Je crois qu'on est à des années-lumière encore d'une telle situation. Et si liste communautaire il y a, on peut le voir d'ailleurs auprès d'un certain nombre d'institutions des musulmans de France, la volonté plutôt que les Français musulmans puissent prendre part à l'ensemble des listes des partis politiques et pas simplement dans une logique communautaire. Donc là aussi, ça ne concerne qu'une partie des institutions représentant les musulmans de France.
Maire, au bord de la crise de nerfs, la démocratie locale peut-elle survivre? C'est le titre de votre ouvrage, Martial Foucault.